Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Lui-même, que ferais-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 mesures d'huile, » répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ?»« 100 mesures de blé, » répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle, c'est Jésus qui parle, sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia pour la parole de Dieu ce matin. Et bien sûr, j'arrive ce matin, une fois de plus, avec une nouvelle parabole. Je vous ai dit que j'aimais les paraboles et que j'avais l'intention d'étudier un certain nombre de paraboles avec vous. Voyez-vous, lorsque l'on étudie une parabole, ici, c'est la parabole de l'économe infidèle, c'est un petit peu comme lorsqu'on le regarde quelqu'un qui fait du tricot et qu'on n'a jamais tricoté soi-même. Une personne qui tricote, elle a deux espèces d'aiguilles entre ses mains. Et puis elle fait un je ne sais trop quoi, elle passe de la laine à droite, elle passe de la laine à gauche. On ne sait absolument pas ce qui se passe. Et à la fin, il y a un résultat. Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas tricoter arrive à comprendre ce que fait un tricot ? Ok ? Quelqu'un qui... On ne comprend pas. Et bien souvent, les paraboles, elles ressemblent à une espèce de tricot que nous avons besoin de détricoter pour pouvoir les comprendre. Hallelujah ! Donc je vous ai déjà partagé à propos donc de deux paraboles. Est-ce que vous en rappelez de ces deux paraboles ? Je vais partager quelle parabole ? Ah, ça fait un peu loin. Allez, allez. Les noces de l'agneau, merci Aurélie. Ok, et quelle autre parabole ? Ah, d'accord. Et je vous ai enseigné la parabole des vignerons. Ok, alors la parabole des vignerons, c'était cette parabole difficile à comprendre. Comment se faisait-il que une personne qui travaillait 12 heures et une personne qui travaillait 1 heure avaient le même salaire? Ce qui semblait juste pour Dieu et ce qui nous semblait absolument incroyable pour nous-mêmes, ok? Et puis, il y avait la parabole, donc, des noces de l'agneau que j'affectionne beaucoup, qui est la parabole, en fait, des festins de noces. Et donc, dans cette parabole, on se demandait comment cet homme a réussi à entrer dans les festins, ok? Comment ça se fait qu'il n'avait pas son habit? Qu'est-ce que représentait cet habit? Donc j'ai enseigné ces choses et maintenant je vais vous enseigner donc une troisième parabole qui est donc la parabole de l'économe infidèle. Hallelujah! Vous savez, souvent les paraboles sont des enseignements, enfin même pas souvent, les paraboles sont des enseignements très puissants et très profonds et très précis. Jésus a utilisé des paraboles pour nous révéler des mystères du royaume de Dieu. Et donc, dans les paraboles se cachent des mystères que nous avons besoin de découvrir. Et donc, dans les paraboles aussi, nous découvrons la façon dont le royaume de Dieu fonctionne. Nous découvrons la façon dont Dieu pense et la façon dont Dieu est. Et nous découvrons aussi la façon dont les choses vont se produire. Donc, il y a énormément de choses qui nous sont révélées. J'aimerais vous dire qu'il est important dans votre vie que vous n'ayez pas votre propre conception des choses. Si Jésus nous a parlé, nous a révélé des mystères, des choses qui nous semblent, dans chacune des paraboles, lorsqu'on les lit à notre propre opinion et selon notre propre vue, cela nous semble toujours incroyable. Il y a toujours un point d'interrogation au milieu et on s'est dit, tiens, c'est bizarre, tiens, je ne comprends pas. Mais voyez-vous, cela nous apprend que nous ne devons pas comprendre le Seigneur comme nous avons envie de le comprendre, l'interpréter comme nous avons envie de l'interpréter, ou nous fabriquer notre propre conception de Dieu. Nous devons avoir la conception de Dieu qui vient de la parole. En d'autres termes, nous devons connaître Dieu non par rapport à ce que nous aimerions qu'il soit, ou non par rapport à ce que nous pensons que Dieu est, mais par rapport à ce que Dieu est vraiment. Hallelujah. Beaucoup de gens partent avec leurs propres idées et leurs propres conceptions, et j'aimerais vous dire qu'à la fin, ils risquent d'avoir une grande déception. Si vous posez la question à des gens dans la rue, qu'est-ce que vous pensez de Dieu ? Est-ce que vous croyez que l'enfer existe ? Est-ce que vous croyez que le ciel existe ? Les gens vont vous dire leur propre conception. Oh, ils vont vous dire, je pense qu'il y a une vie après la mort. Je pense que nous allons tous au ciel. C'est leur propre conception. Maintenant, ce qui est important, ce n'est pas leur propre conception. C'est quelle est la réalité. Or, les gens partent avec leur propre conception. Ils se font leur propre idée de Dieu et ils avancent avec cela. C'est une chose extrêmement dangereuse. Lorsque, si on devait poser la question à des gens en leur disant, qu'est-ce que vous pensez que Dieu pense du péché? Est-ce que les gens qui sont pécheurs entreront dans la présence de Dieu? Les gens vous diront, oh, mais nous pensons que Dieu est amour. Dieu est amour. Tout le monde est sauvé. Oh, même les gens pécheurs, la grâce de Dieu sera là. Ce qui est important encore, ce n'est pas ce que nous pensons, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Parce que la parole de Dieu déclare, ce que la parole de Dieu déclare, c'est notre standard. C'est ce que Dieu a révélé, c'est la vérité, et c'est comme ça que les choses vont se passer, pas autrement. Quand bien même cela peut nous paraître étrange, quand bien même cela peut nous paraître fou, quand bien même cela peut nous paraître injuste, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Hallelujah. Vous savez, les gens entrent dans le mariage, par exemple, avec cette même conception. Hein, ils épousent une personne, et puis ils pensent qu'ils ont épousé le prince charmant. Et ils pensent qu'ils ont épousé la princesse charmante. Parce que ils épousent quelqu'un par rapport à leur propre conception de qui est la personne. Hein? Seulement, nous n'allons pas vivre avec la conception de qui nous avons épousé, nous allons vivre avec la réelle personne. Donc, ne soyons pas aveugles, ayons les yeux ouverts. Ne vivons pas dans un monde imaginaire ou dans un monde de rêve, vivons dans la réalité. Hallelujah. Parce que si vous vivez dans l'imaginaire ou dans vos propres conceptions, vous serez déçus tôt ou tard. Hallelujah. Ok, donc, dans cette histoire-là, nous avons un homme riche. Et vous savez, un homme riche, c'est quelqu'un qui a des terres, c'est quelqu'un qui a des possessions, c'est quelqu'un qui a du bétail, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est aussi quelqu'un qui a fait des investissements. Cet homme-là, c'est un homme riche. Et parce qu'il est riche, qu'est-ce qu'il a ? Il a un économe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un économe ? Un économe, c'est un administrateur de ses biens. C'est un gestionnaire. Aujourd'hui, dans les banques d'affaires et dans le milieu professionnel, il y a des gens qui sont en charge de patrimoine. Donc, cet homme, c'est un économe. Il est en charge du patrimoine de cet homme riche. C'est donc un gestionnaire, c'est un administrateur. Hallelujah. C'est quelqu'un qui est payé pour gérer et administrer les biens d'un autre homme. Il est payé pour générer du profit. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? J'aimerais vous dire que nous sommes tous gestionnaires et administrateurs des biens de Dieu. Nous sommes tous gestionnaires et administrateurs des biens de Dieu. Et d'ailleurs, simplement rappelez-vous ce merveilleux message que le prophète avait prêché sur le fait que nous sommes gestionnaires, je crois, de 7 choses, notamment de notre vie, de notre temps, de notre santé et de beaucoup d'autres choses. Nous sommes gestionnaires. En plus du fait que nous sommes gestionnaires de nous-mêmes et de notre vie, nous sommes gestionnaires des biens de Dieu lorsque nous sommes devenus chrétiens et croyants. Hallelujah. Donc cet homme était un gestionnaire. Maintenant, comprenez que sa gestion à cet homme devait augmenter, avait pour but d'augmenter, de multiplier, d'améliorer, de développer les biens de cet homme et non de les diminuer ou de les appauvrir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que doit faire un gestionnaire? Il gère les biens, mais pas simplement il gère les biens, il est censé prendre ses biens et les faire développer. Il est censé prendre ses biens et amener une augmentation, voire une multiplication. Hallelujah. Mes amis, quoi que vous fassiez dans la vie, Dieu s'attend à ce que vous multipliez les choses. Dieu a dit à Adam, domine et multiplie. Nous sommes appelés à être une bénédiction dans ce monde. Et nous sommes appelés à être une bénédiction pour le royaume de Dieu. De la même façon, lorsque vous épousez quelqu'un, vous n'êtes pas censé rendre la vie de votre conjoint plus misérable qu'avant. Vous êtes censé amener du bonheur et une augmentation dans la vie de la personne que vous épousez. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Il y a beaucoup qui devraient méditer sur cette question-là. Parce que lorsque on épouse quelqu'un, lorsqu'on se marie, on est censé amener une augmentation, amener un plus dans la vie de l'autre et non un moins. Alléluia. De la même façon, quand vous travaillez pour quelqu'un, vous ne devez pas baisser la qualité de l'entreprise ou baisser la qualité du travail, vous êtes censé l'augmenter. Ça, c'est un principe de succès. Premièrement, c'est un ordre que Dieu nous a donné. Lorsqu'il a créé Adam, il l'a façonné, il a soufflé dans ses narines le souffle de vie et il lui a donné un commandement. Nous sommes et nous vivons toujours sous ce commandement. Nous naissons, nous grandissons et nous devons apprendre à progresser dans tous les domaines de notre vie parce que à l'intérieur de nous, c'est notre destinée et c'est notre appel. Quelle que soit la chose que Dieu nous demande et quel que soit le domaine dans lequel Dieu nous place, c'est pour la progression et la multiplication. Est-ce que vous le réalisez? Maintenant, beaucoup de gens prient pour le succès. Seigneur, donne-moi du succès. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi des finances. Ces prières sont des bonnes prières. Nous devons prier comme cela. Mais nous prions dans le vent. Nous prions de façon inutile et totalement vaine si nous ne comprenons pas les principes de Dieu et si nous ne les mettons pas en pratique. Les principes de Dieu pour le succès, et c'est valable dans tous les domaines de notre vie, dans le mariage, dans la vie professionnelle, dans les finances, dans le royaume de Dieu. Le principe de succès, c'est que si 1 plus 1 égale moins 1, c'est la catastrophe. Hein? Si 1, imaginez 1 c'est vous, plus 1, imaginez l'entreprise dans laquelle vous êtes placé, ou le foyer, ou le mariage, ou quoi que ce soit. Ok? Si 1 plus 1 égale moins 1, il y a un gros problème. Si 1 plus 1 égale 0, il y a encore un problème. Si 1 plus 1 égale 2, c'est juste normal. Mais si 1 plus 1 égale 4, là, c'est le succès. Est-ce que vous êtes avec moi? Hallelujah! En d'autres termes, si vous faites le travail qui vous est demandé, et beaucoup d'entre vous peut-être vous cherchez un travail, et j'aimerais que vous m'écoutiez parce que c'est important ce que je vous dis. Si vous allez trouver une place, si vous voulez chercher un emploi, qui soit un bon emploi, et que vous voulez rester dans cet emploi, si vous vous contentez de faire le travail qui vous sera demandé, vous allez obtenir un salaire. Ok? Ça fait 1 plus 1 égale 2. Si vous avez ce travail, mais que vous ne faites même pas le travail demandé, que vous n'arrivez pas à faire le travail demandé, que vous êtes en retard, etc., vous faites 1 plus 1 égale moins 1 ou 0. Mes amis, c'est sûr, on vous gardera pas. C'est évident. Vous pouvez prier. On vous gardera pas. Parce que si 1 plus 1 égale moins 1, les employeurs ne sont pas fous. Ok? Le monde n'est pas fou. C'est un mauvais calcul. Pareil dans un mariage et pareil en toute chose. Ok? Mais si vous allez dans un emploi, si vous cherchez un emploi, si vous voulez que Dieu vous bénisse et que vous faites 1 plus 1 égale 4 en d'autres termes, que vous faites votre travail, mais pas simplement votre travail, vous comprenez les attentes de votre employeur, vous allez au-delà de ce qu'il espère, vous êtes la personne qu'il va vouloir garder à tout prix et parce qu'il va vouloir vous garder, il va vous promouvoir. Et il va vous donner une position et il va augmenter votre salaire et vous allez passer automatiquement d'un CDD à un CDI. Parce que 1 plus 1 égale 4 égale CDI. Dans tous les domaines. 1 plus 1 égale 2 égale CDD. Mais 1 plus 1 égale moins 1 égale terminé. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut pas être fou. Dieu est intelligent. Dieu veut que nous ayons sa sagesse. Hallelujah. Nous sommes censés augmenter les revenus et l'activité, la qualité du travail de là où nous travaillons si nous voulons avoir la promotion. Celui qui ne fait que son travail n'aura qu'un salaire. Mais si l'entreprise doit débaucher, s'il y a des problèmes financiers dans l'entreprise, cette personne ne restera pas. Je veux que vous soyez les Joseph. Dieu veut que vous soyez les Joseph sur cette terre. Dieu veut que vous soyez les Jacob. Vous savez, lorsque Jacob a dû quitter Laban, Laban n'était pas content qu'il parte. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il avait tellement multiplié le troupeau. Il avait tellement rendu Laban riche que Laban ne voulait pas qu'il parte. Joseph a tellement enrichi ses maîtres. Partout où il a allé, il a amené l'augmentation et la promotion et la multiplication. Daniel était un homme sur lequel les rois comptaient. Il amenait de l'augmentation et la bénédiction et la sagesse de Dieu. Il n'y a pas de secret pour le succès. Qui veut avoir du succès? Amen. Qui veut avoir la promotion? Qui veut avancer dans les voies de Dieu? Il n'y a pas de secret. Nous devons augmenter et multiplier ce que Dieu nous a donné. Nous devons être une bénédiction et un exemple là où nous sommes. Nous devons avoir de l'autodiscipline. Hello. Nous devons avoir de l'autodiscipline et nous permettre certaines choses et ne pas nous permettre d'autres choses. Nous devons avoir de la rigueur. Nous devons avoir de l'ordre. Nous devons avoir une gestion intérieure pour pouvoir être une bénédiction. Hallelujah. Vous savez, Dieu a fait des promesses. Il a dit, notamment dans le Deutéronome 28, il a dit que nous serons à la tête et non à la queue, au-dessus et non au-dessous, bénis en entrant, bénis en sortant. Toutes ces promesses sont oui et amen. Mais elles sont oui et amen pour ceux qui obéiront à la voix de l'Éternel, leur Dieu. Or, ceux qui obéissent à la voix de l'Éternel, leur Dieu, ceux qui mettent la parole en pratique, ils ont la pensée de Christ. Et donc, ils ont la sagesse de Dieu. Et la bénédiction ne leur tombe pas dessus par hasard. Vous comprenez cela ? C'est la diligence, c'est l'obéissance à Dieu et au principe de Dieu qui amène la bénédiction. Donc ça, c'est une parenthèse. Parce que vous savez quoi ? Parce que notre gestionnaire là, dont il est parlé dans cette parabole, c'est un gestionnaire infidèle. Donc le maître, il voit ses comptes, il regarde ses investissements, et puis en plus il entend parler, quelqu'un lui rapporte que ce gestionnaire qu'il a n'est pas un bon gestionnaire. Il est infidèle. On ne sait pas en quoi il est infidèle. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque le maître vient vers lui et qu'il lui dit « Rends compte de ton administration, on m'a dit que tu étais infidèle dans mes propriétés, dans mes biens », cet homme-là ne va pas contester. Il ne va pas dire « Oh, il y a eu un krach boursier. Oh, il y a eu un jeudi noir à la bourse. Oh, il y a eu ceci ou cela, c'est à cause... » Non, non, il ne va pas contester. Il ne va même pas se défendre. Ce qui prouve qu'il a été infidèle dans son administration. Et donc, le maître lui dit, rends compte de ton administration. J'aimerais vous dire que tous, dans le monde naturel, mais aussi et particulièrement dans le monde spirituel, nous allons tous devoir rendre compte de notre administration. De la façon dont nous avons administré notre vie. De la façon dont nous avons géré la connaissance que nous avons de Dieu. Amen. De la façon dont nous avons fait ce que Dieu nous a demandé de faire. Pas ce que nous avons voulu faire, mais ce que Dieu nous a demandé de faire. Nous allons tous être comme ces gestionnaires, comme cet économe qui va passer devant le maître et qui va nous dire et qui va voir quel est le bilan de notre gestion. Nous devrons rendre des comptes de notre administration. Maintenant, cet homme, lorsque le maître réalise que sa gestion est infidèle, il réalise qu'il va perdre son poste. Et la seule chose à laquelle pense cet homme, il pense à son avenir. C'est très important ce que je vous dis. Il pense à son avenir. Il pense pas, il n'est pas en train de pleurer, en train de dire « Oh mon Dieu, j'ai fait une mauvaise chose, j'ai mal administré ». Il n'est pas en train de mendier auprès du maître en disant « Garde-moi dans ton emploi, je vais améliorer la situation ». Non, non, il sait qu'il va être mis dehors et la première chose qu'il pense, il ne pense pas aux autres choses qu'à lui-même. Et il pense à son avenir. Regardez ce qu'il est écrit. Il est écrit au verset 3, l'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre, je ne le peux plus. Je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. La seule chose à laquelle pense cet homme, c'est à sécuriser son avenir. N'oubliez pas qu'à la fin de cette parabole, le maître va dire que cet économe infidèle était un homme avisé. Ça, c'est incroyable. Et que Jésus ne va même pas contredire l'œuvre de cet homme infidèle, mais qu'il va même nous disputer, nous. Il va nous gronder, nous, à la fin. Alors que nous, on s'attend à ce que Jésus dise que cet homme était infidèle et qu'il devait être réprimandé. Jésus ne va absolument pas répondre comme nous attendons à ce qu'il réponde. Donc cet homme pense à l'avenir. Première chose en pensée, il pense à l'avenir. Et donc, comme il est toujours économe, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est toujours économe, il est toujours gestionnaire, donc il a encore le poste. Et parce qu'il a encore le poste pour quelque temps, il va valoriser ce temps. Et il va faire venir tous les débiteurs, tous les gens qui doivent de l'argent au maître, et va leur dire « Assieds-toi, parce que j'ai encore le pouvoir, j'ai la procuration, c'est moi qui suis encore gestionnaire. Combien tu dois à mon maître ? 100 litres d'huile, écris-en 50. Tu en dois combien ? 80, écris 20, etc. etc. » Donc, il va complètement réduire les dettes des uns et des autres. Et comme il est pressé, il leur dit « Vite, assieds-toi vite !» parce qu'il est pressé, parce qu'il sait que le temps est court. Il doit opérer très rapidement. Qu'est-ce que va faire cet homme-là ? Il va donc faire deux choses. Un, il va faire rentrer de l'argent pour son maître, rapidement, parce que ces gens peut-être ne vont jamais payer. Deux, il va assurer son avenir, sans que ça ne lui coûte rien, sans que ça lui coûte aucun sou. Il va rendre ces gens qui étaient redevables au maître, il va les rendre redevables à lui-même. Parce que c'est lui qui vient avec l'idée de réduire leur dette par deux. Donc il va rendre ces gens redevables à lui-même, de sorte que quand il sera éjecté de son emploi, ces gens, ils lui doivent quelque chose. Et donc, ils le reçoivent dans leur maison, et que lui, il s'assure un avenir confortable et tranquille. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il rend les gens redevables à lui. Le maître vient. Et au verset 8, il est écrit « Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle, dit Jésus, et là c'est Jésus qui parle, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. » Nous pensons, cet homme est fou. Ce maître est fou de dire une chose pareille. L'économe, c'est un escroc, il est condamnable. Mais Jésus, il prend la parole et il ne dénonce pas ce qu'il fait. Au contraire, il va nous reprendre, nous les enfants de la lumière, en disant que bien souvent on est à côté et qu'on ferait bien mieux de faire comme cet économe infidèle. Sauf que cet économe infidèle a fait ce qu'il a fait. Il l'a fait pour des choses éphémères. Il l'a fait pour des choses vaines et passagères. Il a utilisé son intelligence et il a utilisé ses capacités pour un royaume qui est éphémère, pour des choses de ce monde qui vont passer. Mais Dieu nous appelle, nous qui sommes croyants, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons une mission, nous qui avons un appel. Nous qui avons une foi, nous qui connaissons les tabernacles éternels, il nous appelle, Dieu nous appelle à faire la même chose que cet homme a fait, mais pour une cause noble, qui est la cause de l'évangile. Hallelujah. Deux choses cet homme a fait. Il a pensé à l'avenir. Il a préparé son avenir. Et Dieu nous demande, alors que nous vivons sur cette terre et que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre, que nous sommes que de façon passagère sur cette terre, Dieu nous appelle à regarder à l'avenir et à faire toute chose en ayant conscience de l'avenir. Ce que cet homme a fait pour une cause injuste, avec des procédés injustes, personne ne le remet en question, parce qu'à la fin même, le maître dit, il dit que c'est un économe infidèle. La Bible dit que le maître loua l'économe infidèle. Il n'a pas loué l'économe, il savait que c'était un économe infidèle. Donc on ne remet pas en question son infidélité, mais par contre, ce que l'on voit, c'est sa façon de penser. Et Dieu nous dit que nous devons, nous qui sommes chrétiens, nous devons penser comme lui, il a pensé. Parce que lui, à un moment donné, il a réalisé qu'il avait un avenir. Il a réalisé qu'il y avait des choses qui étaient plus loin. Nous ne pensons pas simplement à notre avenir. Nous ne pensons pas simplement à demain. Nous vivons déjà dans l'éternité. À partir du moment où nous avons donné notre vie à Christ, nous sommes entrés dans l'éternité. N'est-ce pas? Vous avez votre date de naissance naturelle, mais vous avez aussi votre date de naissance spirituelle. Et à partir de votre date de naissance spirituelle, vous êtes entrés dans l'éternité, qui est la vie éternelle. Il n'y a plus de fin. La mort sera un passage, la mort sera un rideau. Mais il a dit, et le Seigneur nous dit, pensez aux choses éternelles. Calculez par rapport à l'éternité. Il n'y a pas de mal à calculer. Cet homme, il a calculé. Il a pensé à l'avenir. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait en fonction de l'avenir. C'est ce que le monde fait. Le monde calcule et pense pour l'avenir, mais pour un avenir temporaire. Pour des richesses éphémères et pour des choses inutiles et vaines. Nous qui sommes chrétiens, soyons plus intelligents et plus avisés que le monde. Faisons les choses pour le royaume éternel. Travaillons pour le royaume de Dieu. Travaillons pour cette cité dont les fondements sont inébranlables. Alléluia. Travaillons et œuvrons pour un trésor qui ne périra pas. Cet économe, il a fait deux choses. Un, il a pensé à l'avenir. Deux, il a utilisé l'argent pour y arriver. Et voici les deux leçons que nous tirons de cette parabole. Ce sont les deux leçons que Jésus veut que nous comprenions. Un, il a pensé à l'avenir. Deux, il a utilisé l'argent pour sécuriser son avenir. Dieu nous appelle, nous en tant que chrétiens, à utiliser notre argent pour bâtir et construire un avenir. Hallelujah. Regardez ce que Jésus dit. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Hallelujah. Ça veut dire que nous devons utiliser, c'est en utilisant les richesses injustes. Qu'est-ce que sont les richesses injustes? Les richesses injustes, c'est l'argent de ce monde. Mammon est le dieu de ce monde. Mammon, c'est l'argent. L'argent de ce monde. La Bible dit que nous devons l'utiliser pour construire un tabernacle éternel. Hallelujah. Il est écrit, faisons-nous des amis avec des richesses injustes, c'est-à-dire, utilisons notre argent pour le salut du monde. C'est ça ce que ça veut dire. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, c'est-à-dire, gagnez des amis. Avec quoi? Pas avec votre amitié. C'est pas simplement avec l'amitié qu'on attire les gens à Christ. C'est pas avec l'amitié qu'on les gagne. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. On sait que l'évangile doit être transporté dans les nations du monde. On sait que pour prêcher l'évangile, cela demande de l'argent, n'est-ce pas? Dieu nous dit, c'est pas moi qui le dis, hein. Jésus nous dit à nous qui sommes des chrétiens, qui sommes les gestionnaires, parce que justement nous sommes des gestionnaires. Il nous dit, faites-vous des amis, c'est-à-dire des gens qui vont être sauvés avec votre argent. En d'autres termes, investissez votre argent dans des valeurs éternelles. Dieu merci, bien sûr que nous devons investir notre argent dans des valeurs de cette terre et nous devons vivre confortablement et Dieu n'a jamais été contre cela. Amen. Et que nous devons même faire prospérer notre argent. Mais notre argent, nous qui sommes des gestionnaires de Dieu, nous savons que cet argent, il est éphémère. Nous savons que les choses de ce monde vont passer, mais que les choses ne donnera pas de plus grandes pour que vous deveniez un grand voleur. Comprenez? Ok, qu'est-ce qu'il nous est dit? Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ça veut dire que lorsque l'on voit de la fidélité dans le cœur d'une personne pour des petites choses, pas que dans le domaine des finances, dans tous les domaines de la vie, on peut être sûr que cette petite chose dans laquelle cette personne sera fidèle, elle sera aussi fidèle dans une plus grande chose. Et donc, on va lui donner plus de responsabilités. Et il va y avoir une augmentation et une multiplication dans sa vie. N'oubliez pas que je crois que Rockefeller a été employé, et c'est comme cela que sa vie a commencé, lorsqu'il est allé dans un entretien d'embauche, et qu'il y avait une aiguille par terre, et qu'il a ramassé, il était dans cet entretien, et qu'il a ramassé une aiguille par terre. Et lorsque cette personne a vu qu'il était capable de voir le moindre détail et de ramasser quelque chose qui ne lui appartenait même pas, il a vu dans cet homme une valeur et une capacité. Et il a été employé par ce détail-là, dans une toute petite chose. Oui, mais c'est dans les toutes petites choses qu'on voit les gens. Dieu n'a pas besoin d'attendre de vous mettre dans des grandes choses pour vous voir vous révéler. Hallelujah. Vous savez, il y a des gens qui attendent d'avoir un grand ministère pour être fidèles à Dieu. Il y a des gens qui attendent d'avoir une grande audience pour être fidèles à Dieu. Mais Dieu ne fait pas les choses de cette façon-là. Lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, nous serons gestionnaires de plus grandes choses. Hallelujah. Et il est écrit, « Et celui qui est injuste dans les moindres choses, c'est-à-dire celui qui n'est pas fidèle avec les petites choses que Dieu lui demande de faire, les petites choses que Dieu lui demande de donner, les petites choses que Dieu lui demande, dont Dieu lui demande d'être fidèle. S'il est injuste dans ces petites choses, la Bible dit, il le sera aussi dans les plus grandes choses. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Amen. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul ne peut servir de maître. Hallelujah. Vous savez, la parole de Dieu déclare, et Jésus a dit, « Ne vous amassez pas des trésors, là où la rouille et la teigne détruisent, et où les voleurs percent des robes. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la rouille et la teigne ne détruisent pas, et les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Hallelujah. Il est temps de lever les yeux, mes amis, et de vivre pour ce qui est éternel. Il est temps de lever les yeux et de vivre pour l'éternité. Nous devons vivre dans l'éternité. Il y a une autre parabole qui dit que les terres d'un homme riche, avaient beaucoup rapporté et qu'il était là à remplir ses greniers. Et il se disait, je dois battre et construire de nouveaux greniers pour amasser ma richesse. Et cet homme était là en train d'être satisfait, heureux de tout ce qu'il avait amassé sur cette terre. Oh, il était heureux. Mais la Bible dit que Dieu lui a dit, insensé, ne sais-tu pas que cette nuit-là, ton âme va être redemandée? Voyez-vous, nous avons besoin de lever les yeux vers les choses éternelles. Cet homme-là avait vécu toute sa vie sans jamais penser à après, sans jamais penser à l'éternité, sans jamais penser à ce qu'il pouvait y avoir après la mort. Dieu nous dit qu'il n'en soit pas de nous la même chose. Bien sûr que nous connaissons l'éternité, bien sûr que nous savons que nous allons au ciel, mais nous devons aller plus loin que cela. Nous devons vivre pour les choses éternelles. Nous devons vivre en ayant conscience des choses éternelles. Nous devons nous construire un trésor au ciel. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce matin? Nous devons investir dans ce qui est éternel, parce que les choses de ce monde passeront. Toutes choses passeront, la Bible dit, mais sa parole ne passera pas. Hallelujah. Donc j'aimerais vous dire ce matin, premièrement, vivez pour l'éternité. Deuxièmement, investissez. Investissez-vous vous-même. Investissez votre temps. Investissez vos talents. Investissez votre force. Investissez votre argent. Investissez votre cœur pour ce qui est éternel. C'est le sens de cette parabole. Vous savez, les paraboles sont vraiment une bénédiction. Je les aime énormément. Et c'est un plaisir de les partager avec vous. J'espère que vous les comprenez. Est-ce que vous avez compris cette parabole ce matin? Hallelujah. J'aimerais que nous fermions nos yeux. Gloire à Dieu. Les choses d'en haut ne vont pas passer, elles seront éternelles. Faites-vous des amis, hein? Gagnez des gens à Christ, des amis. Ils deviendront pour vous des amis. Les gens qui vont être sauvés par vous et au travers vous, et notamment au travers de votre argent, seront des amis. Parce qu'il est dit, ils vous recevront. Ils vous recevront. Ils vous feront une fête. Ils vous feront un festin. Il y aura de la joie. Il y aura de la gloire. Dans les tabernacles éternels, ils vous recevront dans les demeures éternelles que nous avons au ciel. Ce qui nous rappelle encore une fois, parce que les paraboles du royaume nous rappellent toujours cette dimension d'éternité, nous rappellent toujours cette dimension du ciel, combien nous devons avoir les yeux fixés dans le ciel pour vivre sur cette terre. En tant que croyants, je le répète encore une fois, nous devons avoir les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. En d'autres termes, nous devons faire ce que nous devons faire sur cette terre. Mais les réalités du ciel, les réalités de l'enfer, les réalités spirituelles doivent faire partie de notre quotidien. Nous devons vivre avec ces réalités. Hallelujah. Jésus marchait sur la terre, mais il connaissait parfaitement le royaume de Dieu. Il vivait totalement en connaissance de ce qu'il y avait après. Et dans tout ce qu'il y avait, il y avait toujours une dimension de spirituel et d'éternel. Hallelujah. Donc il nous dit là, votre argent, lorsque vous êtes un gestionnaire selon Dieu, votre argent doit être utilisé pour l'évangélisation du monde. Amen. Il doit être utilisé pour le salut. Il doit être utilisé pour la mission. Il doit être utilisé pour le royaume de Dieu. Et c'est ainsi que lorsque vous irez au ciel, il y aura beaucoup de gens qui viendront vous voir et vous dire merci. Et j'aimerais que vous le réalisiez. Qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront, des visages que vous n'avez jamais vus, des visages que vous n'avez jamais même imaginés, des gens qui viendront vous dire merci, des gens qui viendront vous inviter dans leur demeure au ciel, parce qu'ils seront éternellement reconnaissants de ce que vous avez fait pour eux. Vous savez, la personne qui est venue dans ma famille et qui a fait que ma mère ait été sauvée, alors que je préparais ce message, je pensais, j'espère voir cette personne au ciel, parce que je sais que la personne qui est venue dans notre jardin, un après-midi, nous étions des petits-enfants, ma mère était totalement anti-Dieu, n'avait jamais voulu entendre parler de Dieu, il ne fallait pas lui en parler, ça développait son agressivité. Les griffes sortaient, littéralement les griffes sortaient. Ma mère a changé. Oh, Dieu a fait une œuvre dans sa vie. Mais il fallait qu'il entre par la bonne porte. Elle ne voulait pas entendre parler des choses de Dieu. Les gens, pour elle, elle le dit. Elle le dit souvent quand elle prêche. Les gens qui croyaient en Dieu, pour elle, c'était des gens faibles. C'était des gens faibles. Elle pensait, les gens, ils ont besoin d'avoir une foi pour vivre, ils sont faibles. Elle n'aimait pas les choses de Dieu. Lorsque cet homme est venu, il est entré dans notre jardin. Il est venu vers ma mère, plein du Saint-Esprit. C'était un jeune converti. Il était rempli de Dieu. Dieu avait touché sa vie. Il est venu avec ses simples paroles auprès de ma mère. Comme ça, il est arrivé comme ça à l'improviste. Il n'était même pas attendu. Et il est venu voir ma mère et lui a dit, « Sais-tu que Jésus sauve, que Jésus libère, que Jésus guérit ?» Il lui a dit ces trois paroles. Elle était sur le point d'ouvrir sa bouche et de lui sauter dessus, littéralement. Mais la puissance de Dieu est tombée sur elle. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle n'a cessé de trembler et de pleurer. et son cœur, son âme a été convertie à Christ. Suite à cela, mon père, donc elle est allée à l'église bien sûr, et puis après elle a tiré mon père à l'église, mon père qui avait l'habitude tous les dimanches matin de partir à l'équitation. Mon père faisait était un fan d'équitation. Il faisait, vous savez, du jumping là, comment ça s'appelle ça? Du saut d'obstacle. Oh, tous les dimanches c'était le saut d'obstacle. Et il remportait des coupes. Et nous avions des chevaux. Et donc nous avions, vous savez, les portes des boxes. Nous avions des fanions et des coupes partout. Mon père adorait le cheval. Nous avions jusqu'à 5 chevaux chez nous. Ma mère a tiré mon père à l'église. Et mon père s'est converti. Et mon père a laissé ses chevaux. Et mon père a laissé l'équitation. Parce que mon père a trouvé quelque chose de plus grand. Hallelujah. Et puis nous avons été traînés comme des petits enfants. Nous avons suivi nos parents à l'église. Et puis Dieu a ouvert notre cœur et Dieu nous a sauvés. Et puis ma mère a amené son frère à l'église. Et puis ma mère a amené son autre frère à l'église. Et puis ma mère a amené sa mère à l'église. Oh, je vous dis pas le combat. Ma grand-mère. Et ma mère me disait qu'elle allait chercher sa mère de force. Le dimanche matin, vous savez, ma mère radical, mais nous devons être des radicaux pour Christ. Lorsque l'on se convertit, on doit radicalement se convertir à Christ. Ma mère allait chercher ma grand-mère à 9h30 dans sa maison. Elle allait la chercher de gré ou de force. Ma grand-mère était pas contente. Elle lui disait, je t'avais bien dit que je n'allais pas venir cette semaine. Ma grand-mère n'était pas encore dans le Seigneur. Je t'avais bien dit, Monique, hein? Et pendant tout le trajet, ma grand-mère, sa mère, l'a fâchée, l'a grondée, comment tu m'as fait ça? Je suis même pas vraiment habillée et je ne suis pas vraiment préparée. Vous savez ce que c'est les grand-mères? Et donc, elle était dans une colère après ma mère. Mais vous savez quoi? Ma grand-mère a donné sa vie à Christ. Elle a été sauvée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, j'espère que cet homme qui avait donné sa vie récemment à Christ, parce que nous n'avons plus véritablement de nouvelles de lui après cela, j'espère qu'il sera au ciel. Et j'espère que nous le verrons au ciel. Et que son âme est sauvée parce que nous lui sommes redevables. Nous lui sommes redevables. Nous lui sommes redevables de beaucoup. Parce que c'est pas simplement le témoignage qu'il a fait auprès de ma mère. C'est ma mère, mon père et toute notre famille qui a été sauvée. Une famille entière. Et donc je pense à cet homme. Et je dis quelle œuvre merveilleuse il a faite. S'il n'était pas venu dans notre jardin. S'il n'était pas allé au temps appointé par Dieu et par le Saint-Esprit pour nous parler. Mais où serions-nous aujourd'hui? Où seraient mes parents? Où serais-je? Qui servirais-je? Que ferais-je? Quel serait mon espoir? Quelle serait ma vie? La parole de Dieu nous dit, faites-vous des amis. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Ces richesses qui viennent de ce monde qui appartient à Mammon, elles doivent servir, au moins un certain pourcentage bien sûr, elles doivent servir à vous faire des amis, mais pas simplement un ami, des milliers d'amis dans le ciel. Parce que lorsque vous irez au ciel, vous les verrez, vous les rencontrerez, vous vivrez avec eux, ils vous seront éternellement reconnaissants, ils vous recevront dans leur maison, dans leur demeure. Hallelujah. Ce sera la joie de vos cœurs, ce sera votre héritage, ce sera les perles sur votre couronne, ce sera votre récompense, ce sera votre bonheur. Mais mes amis, quel bonheur il y a à amener une personne à Christ. Quel bonheur il y a à faire passer quelqu'un du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Quel bonheur il y a à faire qu'une personne soit délivrée des liens de Satan, délivrée de l'esclavage, délivrée du péché, délivrée de la condamnation, délivrée de la peur, délivrée des liens de l'occultisme pour entrer dans la vie avec le Fils. Quel bonheur il y a, quelle joie il y a que d'enfanter pour Christ. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Hallelujah. Donc Jésus n'a pas repris cet économe infidèle. Parce que cet économe infidèle, quand bien même il était infidèle, il a pensé à l'avenir et il a utilisé l'argent pour se sécuriser un avenir. Et c'est ce que cette parabole nous enseigne. C'est pourquoi il est dit, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Ça veut dire, si vous êtes fidèle avec les petites choses que vous avez aujourd'hui, si vous êtes fidèle avec votre dîme, si vous êtes fidèle avec votre offrande, Dieu vous en confiera de plus grandes. Je crois qu'un jour, mon mari avait prêché un message, ou avait dit dans un message, « Si vous êtes un petit voleur, vous resterez un petit voleur. Personne ne fera de vous un grand voleur. » Comprenez ? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous n'êtes pas fidèle avec les petites choses que Dieu vous demande, si vous retenez ce qui appartient à Dieu, dans quelque domaine que ce soit, alors vous êtes un petit voleur. Parce que vous volez Dieu dans des petites choses, ce sont que des petites choses. Mais donc personne ne fera de vous un grand voleur, c'est-à-dire qu'on vous en...
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.